Chers amis des cellules, bonjour. Nous avons vu qu'à la base de toute évangélisation, il doit y avoir la prière. Elle devra toujours accompagner et guider toutes les étapes successives. Le pape Benoît XVI écrivait, je cite, « Celui qui veut donner de l'amour doit lui aussi le recevoir comme un don. L'homme peut assurément, comme nous le dit le Seigneur, devenir source d'où sortent des fleuves d'eau vive. » C'est en Saint Jean au chapitre 7, les versets 37 et 38. Mais pour devenir une telle source, continue le pape, il doit lui-même boire toujours à nouveau à la source première et originaire, qui est Jésus-Christ, du cœur transpercé duquel jaillit l'amour de Dieu. Ça, c'est en Saint Jean 19, verset 34. C'est fin de la citation de Benoît XVI. Eh bien, à la lumière de cette vérité, examinons maintenant la troisième étape du processus d'évangélisation, c'est-à-dire le service. Que signifie servir? Dans son encyclique « Dieu est amour », Benoît XVI dit ceci, « Servir, c'est avant tout manifester l'amour trinitaire que nous avons reconnu et en qui nous avons cru. Dieu est amour. Il nous a aimés le premier. Il nous a envoyé son Fils pour nous sauver, et à travers son sacrifice, il a répandu son esprit d'amour dans nos cœurs. Servir signifie par conséquent vivre l'amour, et de cette façon faire entrer la lumière de Dieu dans le monde. Si tu vois la charité, écrivait saint Augustin, tu vois la Trinité. » Fin de la citation, Dieu est amour, paragraphe 19 et paragraphe 39. Et donc, si nous voulons évangéliser notre oïkos, nous ne devons pas commencer par parler de Jésus et de l'Évangile, mais nous devons en témoigner par notre vie. Très souvent, le fait de parler prématurément de Jésus peut être contre-productif. Le frère doit avant tout être servi. Alors pourquoi devenir serviteur? Parce que le Christ lui-même nous y invite, le Christ lui-même l'a fait. Je vous cite par exemple en Marc 10, les versets 43 à 45. « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Nous devenons donc serviteurs parce que c'est ce à quoi le Christ nous invite et c'est ce que le Christ lui-même a vécu. Souvenez-vous du lavement des pieds en Jean 13, je cite. « Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur et vous dites bien car je le suis. » Dès lors, « si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Servir est donc la méthode adoptée par le Maître. Servir est la méthode aussi choisie par Marie. Quand Marie accueillit l'appel de Dieu à devenir la mère du Sauveur, elle n'hésita pas à se déclarer sa servante. Souvenez-vous en Luc 1, verset 38, « Je suis la servante du Seigneur. » Par la suite, toutes les générations l'appelleront bienheureuse, justement parce qu'elle est devenue, pour toute l'Église et pour toute l'humanité, le modèle parfait de l'humble servante du Seigneur. Il a posé son regard sur son humble servante, dit-elle dans le Magnificat. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Cette méthode de Jésus et de Marie est source de joie infinie. La méthode de Jésus et de Marie est accessible à tous. Tous, au travers de petits gestes animés par un amour sincère, peuvent servir, et ils en éprouveront une joie infinie. Dieu, en effet, proclamera bienheureux ses serviteurs qu'il trouvera au travail à son retour, comme ce sera beau, alors, d'être accueilli par le Père au soir de notre vie avec ces mots. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton maître. Vous reconnaissez les paroles de Matthieu 25 au verset 21. Souvenons-nous aussi que servir les frères avec amour est le premier signe de notre conversion, est le premier signe de notre libération par la grâce du Christ de l'égoïsme. Dans le service, nous nous réalisons comme personne humaine. Servir est une vocation tout à fait naturelle parce que l'être humain est naturellement serviteur. Pensons par exemple aux relations à l'intérieur de la famille, où le service entre les conjoints, entre parents et enfants ou entre frères et sœurs est un style de vie quotidien. Tout homme est créé pour servir. C'est dans le servir seul que l'être humain découvre sa propre dignité et celle des autres. L'être humain devient pleinement lui-même quand il développe ce qui est au centre de son être, sa capacité à aimer et à se donner. Eh bien, le Seigneur nous appelle à vivre ce don de soi à travers un service semblable au sien. Quand les relations interpersonnelles s'inspirent du service chrétien, c'est un monde nouveau qui apparaît. Observons encore la famille. Quand elle vit la grâce spécifique du sacrement de mariage, elle est en elle-même comme communauté de vie et d'amour, une joyeuse nouvelle pour le monde. Lorsque nous vivons le service, non seulement nous accomplissons notre vocation, mais nous donnons aussi au monde le témoignage du chemin par lequel il trouvera la joie, le service mutuel par amour. Souvenons-nous aussi que le service est la véritable façon de devenir grand. Jésus n'interdisait pas à ses apôtres d'être le premier, de vouloir être le premier, mais il nous disait comment procéder. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'était en Matthieu, chapitre 20, les versets 26-27. Alors, au premier abord, cette proposition de Jésus peut paraître décevante et mortifiante pour notre aspiration naturelle à être le premier, à être important. Mais voyons bien que Jésus ne condamne pas cette aspiration, mais il l'oriente vers notre bien authentique. Il affirme en effet que notre grandeur ne dépend pas de notre pouvoir sur les autres, mais que notre grandeur dépend de notre service des autres, comme il nous en donne lui-même l'exemple par sa vie. C'est très important, ça, de remarquer que ce à quoi Jésus nous invite, c'est ce que lui-même met en pratique. Il s'agit en définitive d'imiter son exemple. Lorsque, après avoir exercé le service le plus humble envers les disciples, au moment du lavement des pieds, il ajoute « Vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres ». Tâchons de voir à présent quelques éléments concrets qui pourront nous aider à servir notre oikos. Première question, quand servir? Nous sommes appelés à servir tout le temps, surtout au moment où les personnes que nous servons connaissent des périodes dites de transition ou de stress. Quand survient au cours du déroulement normal de la vie un événement inhabituel, qu'il soit positif ou négatif, on entre dans une situation de transition ou de stress. L'expérience montre que, dans ces circonstances, les personnes sont plus réceptives pour accueillir l'aide ou le soutien des autres. Si un événement de ce type arrive dans la vie de ceux qui font partie de notre oikos, nous devons croire que le Seigneur veut nous utiliser comme instrument pour faire passer tout son amour et toute sa miséricorde. Alors quelques exemples de situations de transition ou de stress. La personne se marie, ou bien une maternité se produit dans le couple, la famille. C'est un agrandissement de la famille, ou la personne est promue à de nouvelles responsabilités dans son travail. C'est peut-être un changement de résidence, un changement d'horaire ou de conditions de travail. C'est peut-être des problèmes de relations dans le milieu familial et social, ou bien une séparation conjugale, un divorce, ou bien le décès du conjoint, d'un membre de la famille ou d'un ami, un grave problème professionnel et économique, une maladie ou un accident grave, une dépression ou une anxiété forte qui est ressentie. Soyons attentifs à ces éléments pour être disponibles à servir notre frère, pour nous proposer au service de notre frère. Alors, lorsque nous avons été attentifs à ces situations où proposer notre aide est peut-être plus particulièrement important, voici quelques suggestions pour aider celui qui est dans le besoin. Voici 12 petites suggestions pour nous aider à l'approcher. Alors, le premier point d'attention, c'est mettre le Seigneur au centre de tout. C'est ce qui est le plus important. Souvenez-vous de ce que dit Saint Luc, « Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. » Où Jésus dit encore, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La deuxième suggestion, c'est être accueillant, disponible et attentionné. Saisir chaque opportunité, ne pas renvoyer à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Être accueillant, disponible et attentionné. Troisième suggestion, écouter attentivement. Souvenez-vous de la lettre de Saint Jacques, que nul ne néglige d'être prompt à écouter, lent à parler. Avoir cette disponibilité pour écouter ce que l'autre a à dire, écouter ce que l'autre a à confier, lui donner une oreille, lui prêter une oreille accueillante. Quatrième suggestion, être souriant et délicat. Rappelez-vous l'épître aux Philippiens, « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Notre sourire, c'est une offrande que nous pouvons faire à l'autre, quelles que soient les circonstances. Cinquième suggestion, ne pas trop s'impliquer sur le plan affectif et ne pas dramatiser. Voilà, c'est du coup se proposer avec simplicité et chercher à résoudre les problèmes à la racine. Ne pas trop s'impliquer sur le plan affectif et ne pas dramatiser. Il y a une certaine distance qui n'est pas indifférence, mais qui est au contraire recul pour être un secours effectif. La compassion implique une certaine distance. Pour prendre un exemple, si quelqu'un s'est cassé la jambe, il ne s'agit pas pour vous de vous casser aussi la jambe pour dire « Eh bien, je souffre comme toi ». Il aura besoin que vous soyez solide sur ses deux jambes pour pouvoir s'appuyer sur vous. Sixième suggestion, ne pas penser que la situation soit impossible à changer. Souvenez-vous de l'évangile selon Saint Luc, « Rien n'est impossible à Dieu ». Septième suggestion, être patient et confiant. Acceptons le fait que l'action de Dieu dans nos vies prend du temps. Notre vie humaine est pétrie de temps. L'action de Dieu dans nos vies prend du temps. Huitième suggestion, être attentif et sincère. En Saint Matthieu, nous lisons ceci au chapitre 5, verset 37. Quand vous parlez, dites oui ou dites non. Tout le reste vient du malin. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Être attentif et sincère dans nos paroles. Neuvième suggestion, ne pas avoir d'attitude de jugement ni de condamnation. Ne pas nous poser en juge de notre frère, parce que ce n'est pas notre rôle, mais ouvrir notre cœur pour le comprendre. Il peut nous arriver d'avoir à écouter des personnes dont la parole est très confuse et empreinte d'un nœud de sentiments parfois très agressifs. Notre premier service, c'est d'accueillir la personne telle qu'elle est. Il ne s'agit pas de devoir dire que tout ce qu'elle dit est juste et vrai, mais de l'accueillir avec parfois sa boule de souffrance, sa boule de contradiction. C'est le premier service que nous rendons. Nous sommes là et nous l'accueillons sans jugement, sans condamnation. Cet accueil est la première étape qui pourra permettre ensuite de prendre du recul, qui permettra à la personne ensuite peut-être de réviser ce qu'elle vient de dire parce qu'elle aura pu déposer toute l'émotion qui était la sienne. Dixième suggestion, ne pas être mauvaise langue, mais discret et prudent. Les commérages tuent la confiance. Ils compromettent l'évangélisation tant dans nos rapports avec le frère évangélisé qu'avec les autres personnes rencontrées. petite anecdote, dans la maison, dans le magasin, pardon, où travaillait la maman de Mère Teresa de Calcutta, il y avait une inscription « Ici, on n'accepte pas les commérages ». 11e suggestion, être conscient de ses limites et se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dans les situations les plus difficiles, n'oublions pas de demander l'aide des cellules, l'aide de la communauté paroissiale. Souvenons-nous que notre force n'est pas seulement en nous, n'est pas seulement en ce que Dieu veut nous donner à travers la prière, mais aussi en ce que Dieu veut nous apporter par la communauté chrétienne. Enfin, 12e suggestion, être généreux. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, verset 27, on lit « Ne refuse pas de faire du bien à qui en a besoin quand tu peux le faire. » Vous savez, la générosité découle du désir de prendre en charge les problèmes du frère, soit en lui consacrant du temps, soit en l'aidant sur le plan matériel. Dieu ne nous demandera jamais de faire ce qui n'est pas dans nos possibilités. Cependant, il arrivera souvent qu'en servant, nous soyons conduits par Dieu à faire des choses qui nous semblaient impossibles. En définitive, ayons un cœur de serviteur comme celui de Jésus. Chers amis des cellules, je vous souhaite de bons échanges.